Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec est-ce que Pascal Duprat et Cédric Aymon sont toujours là?
Oui, on est là.
Ah c'est bon.
Oui, je m'échauffe.
Ah, je pensais que vous étiez parti au golf. C'est bon, vous restez avec nous.
Je cherche Pascal dans une demi-heure et on y va après.
Ils sont dans l'avion pour Kigali.
Très sympa. Ouais. Qui est le meilleur entre vous deux sur les parcours, vous pensez, sur les fairways?
Ben moi, ça fait longtemps que je joue plus. Hein, donc, je pense que Cédric est largement meilleur.
Moi, j'ai joué hier, mais je.
Incroyable. Marc Madiot, Christophe Cessieux sont là également.
On a
avec.
Un golfeur quand même hein, dans les grandes gueules.
Faudrait nous mettre autour de la table une fois.
Bennett, Drouet, bon, il est parti, mais maintenant, il fait plus que jouer au golf de toute façon. Mais il fait une petite heure d'émission par jour.
La nuit, dans les nuits du Casar en
Chénier.
De 8h jusqu'à 20h,
il
fait 2-3 blagues et puis après, il va.
Il va sur les
parcours. Je rappelle évidemment qu'il vous propose un podcast golf animé par JC, justement le Practice. Téléchargez sur toutes vos plateformes de podcast. Dans un instant, Captain Cessieux va prendre le brassard pour nous alerter. Une équipe cycliste française va mourir cette semaine et il faut absolument s'en inquiéter. Événement, je vous rappelle, dans les grandes gueules du sport. Remportez vos places pour le match de Ligue des Champions OM Ajax ce mardi à 21h au Vélodrome. Pour remporter vos deux places, envoyez foot par SMS au 7 32 16. Foot au 7 32 16. Mais d'abord, le PSG en ce moment, c'est le Ballon d'Or, oui, mais c'est aussi piège de cristal.
RMC, le ring des GG.
Mbappé est là, Olise est là, Barcola est là. Ouais, j'ai pas vu de Désiré Doué.
Si on rappelle que Joao Neves est sorti en se tenant à la cuisse gauche et il est sorti blessé.
Ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle.
Dembélé
hein.
Blessé.
Ah là, c'est
il se tient
nouvelle.
La cuisse.
À noter le changement, la sortie de Vitinha en première période remplacée par Hakimi, à voir s'il est blessé.
Et Bradley Barcola avec ce numéro 29 remplacé Vishak Varatsrelia que l'on a vu toucher en fin de première mi-temps suite à un coup reçu.
Encore. Ça fait beaucoup là, non?
Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord.
Et ça continue encore et encore. Alors, parce que Paris est leader ce matin, oui, ça continue encore et encore, effectivement, de les voir tout en haut. Paris a fêté son ballon d'or hier avec Ousmane Dembélé. C'était une très belle cérémonie. Mais les malheurs physiques de ces joueurs continuent de lui pourrir la vie. Déjà privé de 5 joueurs majeurs hier au coup d'envoi. Marquinhos, Neves, Ruiz, Dembélé, Doué. Luis Enrique, qui est lui-même blessé d'ailleurs, a dû faire face à deux nouveaux pépins. Vitinha a remplacé dès la 35e. Et Gvichak Varashkelia sorti à la pause, visiblement touché sur le haut d'une cuisse. Toute la ligne d'attaque de la finale de la Ligue des Champions et sur le flanc en fait hein, les amis, avant de se déplacer à Barcelone mercredi à 21h, à suivre en direct sur RMC. Je vous pose la question les GG, répondez-moi par oui ou par non. Hécatombe de blessés à Paris, faut-il s'inquiéter? Marc Madiot?
Non.
Christophe Cessieux?
Moi je pense qu'il faut quand même commencer à tirer un peu de signal
d'alarme. C'est quoi ça faire beaucoup
en antenne, ça on peut faire permettre aux gens de changer d'avis hein.
Pascal Duprat?
Non.
Cédric Aymon?
Oui.
C'est vrai que Cédric Aymon, quand on prépare l'émission, parfois il dit non pour en fait vous surprendre à l'antenne et dire oui. Je vous mets un peu dans l'idée. Alors pour l'instant, sur le compte XDGG, vous êtes 61% à dire oui, vous êtes inquiet face à l'hécatombe de blessés. On vous attend au 32-16, envoyez vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424 et envoyez vos messages pas uniquement pour me dire que Cédric est un grand golfeur briviste, comme je le lis actuellement envoyé par Philippe. Arthur Perrault était au stade hier soir, salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Petits yeux mais grand talent, est-ce que ça commence à
ça tire dans les pattes aussi, là je sens la blessure musculaire.
Attention,
blessure
tu pourrais venir à l'infirmerie du PSG.
Est-ce qu'on commence à être préoccupé au PSG, Arthur?
Alors oui et non. Oui parce que pour Gvichak Varaskrelia et Vitinha d'abord, ils viennent tous les deux s'ajouter, et tu l'as dit Georges, à cette déjà très longue liste des blessés. Les deux hommes vont passer des examens complémentaires aujourd'hui. Le Georgien pour une douleur à une cuisse. Le Portugais lui a ressenti quelques problèmes physiques selon son entraîneur Luis Enrique, qui lui reste optimiste. Selon lui, les blessures c'est pour toutes les équipes, il faut être positif et rester méticuleux dans la gestion de l'effectif. Avec une infirmerie qui ne désemplit pas, le coach parisien fait avec les moyens du bord. Hier soir face à Auxerre, il a convoqué 4 nouveaux jeunes titis issus du centre de formation, des joueurs entre 17 ans et 19 ans. Malgré les pépins physiques à répétition, le club de la capitale s'en sort, ça c'est un constat. Une victoire hier soir 2-0 face à la JO Auxerre et une première place en tête du classement de Ligue 1. Le défenseur Lucas Hernandez l'a souligné d'ailleurs face aux médias après la rencontre. Paris a appris à vivre avec les blessures, mais la force du PSG, on le sait, c'est le collectif. Un groupe détaillé déterminé, mais qui devra faire tomber le grand FC Barcelone dans 3 jours en Espagne, en Ligue des Champions.
Je te pose la question rapidement, Arthur. Ruiz, Vitinha, Neves, ils peuvent revenir pour Barcelone?
Ruiz, oui, c'est possible parce que c'était de la fatigue musculaire et il s'entraînait à part ces derniers jours et là vraiment il y avait aucune prise de risque, aucun risque de pris hier soir.
Des précautions.
Voilà, exactement. Neves, ça devrait faire. Et le dernier que tu m'as donné.
Vitinha, on verra.
Vitinha, c'est l'inconnu, c'est-à-dire qu'il est sorti sans boiter, sans blessure apparente et on explique qu'il a quelques problèmes physiques.
Petits yeux, Arthur, parce qu'il était dans l'infirmerie du PSG hier pour vous donner toutes les informations. Pascal Dubras, tu n'es pas inquiet?
Non. Si tu veux, sur, d'un point de vue général ou pour le Barça?
D'un point de vue général aussi.
D'un point de vue général,
je
ne suis pas du tout inquiet parce que les championnats comme les Coupes d'Europe se gagnent au printemps. Donc nous ne sommes pas au printemps. Mieux vaut que les Parisiens soient blessés en nombre aujourd'hui, parce que quoi qu'on en dise, ils ont de la marge en championnat. Ils en auront un petit peu moins parce que Marseille commence à les titiller. Tant mieux pour le championnat de France. Mais en mars, tout ceci sera rentré dans l'ordre, à moins que ça soit une saison de déven pour le Paris Saint-Germain. Je vois pas pourquoi on serait inquiet. Inquiet, Dembélé qui a été blessé il y a maintenant 3 semaines ou 1 mois, il va rentrer. Doué, il va rentrer. Dans quelques semaines, tout le monde sera de retour et on ne pourra plus évoquer le fait que la saison dernière était extrêmement longue. Parce que ces joueurs-là, tout en étant blessés, fâcheusement, ça leur permet de récupérer, de se soigner et de revenir en plein boom quand il sera temps de faire des matchs extrêmement décisifs. Donc en plus de ça, le Paris Saint-Germain a quand même, quoi qu'on en dise, du banc.
Ils ont fait rentrer des titis hier, c'est une bonne solution, laisse-moi terminer, des titis de talent, c'est nouveau
en nombre. Donc ces jeunes, ils font leurs armes et Luis Enrique il est très bon entraîneur parce que lui aussi, comme il le faisait au Barça, il fait en sorte que les jeunes profitent de cette place qu'il aurait laissée en championnat par ses blessures à répétition. Et puis pas inquiet parce que pour les 2 blessés d'hier, on va attendre quand même les examens.
Bien sûr.
Parce que ça fait, tout ceci fait parler, tout ceci fait écrire, mais on ne sait pas ce que Xvara a et on ne sait pas ce que Vitinha a.
Oui,
c'est peut-être aussi sorti par précaution.
Pascal, si tu regardes pour Barcelone, oui, il y a de l'inquiétude. Après, tu l'as justement dit, sur toute la saison, les blessures d'aujourd'hui ou les précautions qui sont prises pour protéger l'effectif, c'est pas maintenant que la saison se gagne, c'est pas maintenant que les titres se gagnent. Ce qui me gêne un peu plus, moi, c'est la nature des blessures. On est sur des blessures musculaires quand tu es sur de l'articulation, sur des blessures osseuses. Bon, là, tu peux mettre ça sur le fait du faute à pas de chance. Mais là,
ou à la fatigue aussi. Tu peux te blesser, tu peux te faire un croisé parce que tu es fatigué aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a l'enchaînement de la saison dernière. Il a fallu gérer tout ce qui s'est passé. Il a fallu aller au championnat du monde des clubs. Il a fallu faire une reprise écourtée. Attention que tout ça fasse pas que la saison du PSG soit totalement gâchée parce que on a des joueurs.
Ah oui, parce que pour aller au printemps, il faut quand même passer l'hiver.
Exactement. Hein. Et si t'es trop en retard et si t'as pris, parce que imaginons, tu perds en Ligue des Champions, tu repères, l'énergie que tu vas y laisser, t'auras pas cette fraîcheur-là au printemps.
Pour l'instant, ils ont fait un match, ils en ont mis 4, ok? Donc attendez avant de me dire qu'ils vont perdre. Laissons faire les matchs, je vous en prie.
Bah oui, mais après, Pascal, quand tous les joueurs vont revenir, ça va pas être non plus peut-être la baguette magique, tout le monde va aller mieux en revenant des blessures musculaires. Peut-être que...
Pourquoi ?
Et puis le collectif, t'as besoin de faire tourner
ton... Pourquoi ?
Mais parce que...
Aujourd'hui,
moi, ce qui m'interpelle, c'est la préoccupation que l'on sent dans le staff parisien. C'est-à-dire que Luis Enrique, quand il prend toutes ses pincettes, là, en sortant les joueurs, dès qu'il a un petit doute, quand le Paris Saint-Germain surréagit à l'équipe de France dès qu'il y a un joueur qui est blessé, ça montre l'état d'esprit actuellement au Paris Saint-Germain.
Il travaille au plus juste parce que, justement, la saison dernière était extrêmement longue, les organismes ont certainement été fatigués, et aussi parce que comme il n'y a pas eu de préparation en tant que tel cette saison à cause de la Coupe du Monde des clubs, il est obligé de tâtonner.
Oui, donc il est précautionneux.
Oui, mais Pascal, regarde tous ces joueurs qui sortent, qui rentrent dans le 11 de départ. T'as un collectif qui peut être un tout petit peu moins huilé pour les matchs à venir et importants. On le sait quand t'as
Cédric. Je suis Pascal. D'accord avec toi, mais quand arrivera le printemps, l'équipe type du Paris Saint-Germain, comme la saison dernière, si tant est qu'il n'y a pas de blessés, elle sera alignée tous les matchs et il y aura moins de turnover.
Marc, t'es dans la ligne de Pascal, pas inquiet.
Total, pas inquiet du tout. Moi, je trouve que.
Ouais, mais t'es un fan absolu de Luis Enrique.
C'est
le
pas
jour,
une raison.
Le jour, il faudra émettre la moindre critique.
Mais pourquoi dans les blessures, Enrique, il y est pour rien. Il subit la situation.
Lui,
il profite de la situation. Je pense que Luis Enrique va profiter de la situation. Et la situation, elle est rêvée pour lui.
Super. Mais c'est super d'avoir des blessés, en fait.
Non, mais attends, il a plein de très bons jeunes. Ces très bons jeunes, on les voit rentrer en masse dans l'équipe première pour les matchs comme hier soir. Mais c'est formidable pour l'entraîneur. Ça lui permet de donner du temps de jeu à des talents potentiels et à l'avenir.
Si je peux comparer.
Il pouvait pas rêver plus, c'est mieux. Alors attends, on va inverser le truc. Pourquoi? Bien qu'ils aient beaucoup d'argent, le PSG n'a pas cherché des doublures recrutant.
Je peux te le dire.
Parce qu'ils ont passé dessous les pauvres.
Non, bien sûr qu'il y a
assez sous. Ils ont des bons jeunes.
Ça va mieux. Oui, d'accord, mais surtout parce que Luis Enrique a dit à tout le monde dans la direction sportive en disant « Moi, j'ai un groupe qui marche et voilà, je veux garder ce groupe-là, garder ce lien que j'ai sur le terrain et j'ai pas besoin de recruter 500 joueurs. » On rappelle, 3 joueurs recrutés.
Parce qu'il a quand même du matos.
Dont un seul joueur de champ.
Oui, mais il a tous ces jeunes qui arrivent progressivement sur le devant de la scène. Il va les faire monter en pression et en puissance, et il aura de la réserve derrière.
Christian, est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? FC Barcelone, qui n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs aujourd'hui, est aussi handicapé par certaines blessures.
Gavi, Rafinha, Firmino, pour
4 mois. Rafinha, Firmino, le gardien qu'ils viennent de recruter, il est blessé pendant 4 semaines. Donc, je suis désolé, mais pourtant, ils sont moins fatigués que le PSG, soi-disant. Donc tout ceci, et ça dépend aussi des saisons. Il n'y a pas que l'explication de la Coupe du Monde pour les blessures du PSG. Il y a aussi le facteur chance qui doit et qui peut jouer. Mais aujourd'hui, être inquiet pour le PSG, alors que tout jouera au printemps, c'est vraiment anticiper de manière pessimiste l'avenir. Franchement, je ne partage pas ma vie avec vous, messieurs.
Si j'adore le parallèle avec Louis, tu ne veux pas faire l'émission, en fait, Pascal, tu veux aller jouer au golf.
Non, mais franchement, tu slips avec vous. Hein.
Non, parce que j'adore les deux entraîneurs. Si je peux me permettre un parallèle entre Luis Enrique et Guinovès sur la gestion du groupe et de leur centre de formation. Le Stade Toulousain, quand ils sont champions en 2001, il y a énormément de blessures. Il permet de lancer Nicolas Jean-Jean, Clément Poitrenaud, Frédéric Michalak, parce que il a beaucoup de joueurs blessés et qui lance son centre de formation. Luis Enrique, il va s'appuyer sur centre de formation pour savoir.
C'est assez nouveau au PSG, ça, quand même. Hein,
oui, mais c'est pour ça que je le souligne. Pas recruter, s'appuyer sur son centre de formation. C'est peut-être une ère nouvelle au PSG.
Bah forcé là pour le coup. Enfin c'est.
Mais quand t'es forcé et que tu sais que derrière en backup c'est plus facile. Il est plus facile de rentrer des minots, des titis parisiens quand t'as de la qualité et que t'es forcé et que t'as rien quand même.
Bon franchement s'il fait jouer les minots qu'il y a 4-5 titulaires.
Non mais les titis.
Ouais,
attention parce que les Marseillais vont nous
attaquer. Et qui battent le Barça 3-0 mercredi. Moi je dirais chapeau bas, chapeau les artistes et bravo Monsieur Duprat, vous êtes un génie.
Christophe, comment dire, à faire dans la culotte comme vous le faites. Hier, Luis Enrique, il laisse Fabian Ruiz dans les tribunes, il laisse Hakimi sur le banc, Barcola sur le banc, il n'utilise pas Nuno Mendes, Pacho, et tu es en train de me dire qu'on se chie dans le bain. Arrête, s'il te plaît. Arrête.
Tu l'as mis Christophe, t'es de retour. 4 pièces, il l'a explosé en vol.
Mais c'est le B, c'est le oui-oui du sport, parce que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes. T'es un éternel optimiste, mais ça me fait plaisir parce que ça me file la pêche finalement. Parce que moi, je suis un éternel pessimiste. Et j'ai besoin de gens comme toi pour me remettre.
Je sers à quelque chose. chose et j'en suis fier de te servir à te filer la pêche.
Non, mais je suis très heureux sur le WhatsApp des grandes gueules du sport, 06 12 424 424, j'ai dit quand même beaucoup d'inquiétudes de la part des supporters parisiens.
C'est normal, c'est une inquiétude à court terme, mais c'est pas grave.
C'est une inquiétude à court terme. Ils se projettent sur le match de Barcelone, pas sur la fin de la saison.
Arthur, tu côtoies les supporters parisiens au quotidien. C'est un sujet qui revient quand même assez souvent.
Oui, c'est la crainte.
Toi, en tant que supporter parisien, t'as inquiet ou non?
Je savais qu'il allait pas la sortir celle-là.
Vu la fatigue, il a pas des soirées aussi.
C'est difficile de parler de l'OGC Nice en ce moment, mais c'est vrai que
c'est vrai que ça
inquiète, parce que forcément tous les supporters rapportent à ce qui s'est passé l'année dernière. Alors parce que Pascal parle du printemps, l'année dernière, le début de saison a été laborieux, il n'y avait pas de blessés. Donc là, les supporters se disent, on a beaucoup de blessés, est-ce que ça va de nouveau être laborieux le début de la campagne européenne? C'était l'Atalanta, je suis d'accord.
Exactement.
Mais bon, après, Pascal, très honnêtement, le niveau de l'Atalanta, voilà, c'est plus ce que c'est, et je pense qu'on le verra très bientôt face à l'Olympique de Marseille.
Mais c'est parce que aussi le PSG a maîtrisé son sujet.
Mais alors, je suis complètement d'accord.
L'Atalanta faible, d'accord avec toi, mais le PSG, il était là quand même.
Complètement d'accord avec Arthur. Je pense que dans le raisonnement, tout le monde se dit, comme l'année dernière,
mais évidemment,
passé,
tout le monde savait qu'une année repère,
comme c'est passé,
évidemment.
Et ben, ça repassera. Alors que l'année dernière, effectivement, les données n'étaient pas du tout les mêmes.
On est dans une nouvelle gestion de la force du résultat de la saison passée pour aborder sereinement cette année, mais y compris s'il y a des blessés.
Oui, mais c'est nouveau.
Mais c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est parfait.
Je dis pas que c'est grave. C'est nouveau.
C'est le plan idéal.
Mais c'est incroyable. En fait, Marc, il va avoir un jour avant Tour de France ses 8 meilleurs coureurs sont blessés. Il dira, on va gagner le Tour.
Il va rebondir sur la situation.
Mais il va gagner le Tour sans pénaliser.
Va profiter de la situation.
Moi, je dis, Marc Madiot, nommé préparateur mental de l'équipe du Paris Saint-Germain,
il va lui faire jouer un discours. Imagine s'il est titulé par Jean-Claude Perret. Tous les petits jeunes vont être en admiration. Il va les faire jouer. Mais non, imagine s'il est titulé par Jean-Claude Perret. Des jeunes joueurs aujourd'hui au PSG. T'as la possibilité de rentrer régulièrement sur tout ce début de saison. Mais c'est du pain béni.
Et s'ils sont bons en plus, les Titi parisiens,
il va remettre une piqûre sur leur orgueil. Il va créer une petite atmosphère
de concurrence dans le vestiaire. Ça va pousser, ça va donner encore aux autres petits Titi parisiens de vouloir rentrer dans son équipe.
Exactement. Eh ben écoutez, ça va être incroyable. Rendez-vous donc l'année prochaine quand le Ballon d'Or sera donné à Ndjantou ou Jean Jal rentré hier, parce que ça aurait été du caviar et qu'ils auront surperformé toute la saison. Peut-être, et on ressortira ses bons, mais on verra.
On a un génie
dans les grandes gueules du sport.
Vous êtes des génies.
Tout simplement.
Tout va bien.
Remettez ça, Christophe. Vous êtes des génies, on prend.
Concrètement, qui est leader du championnat?
Le Paris Saint-Germain. Ouais, bah bon, est-ce que la, bon,
enfin,
la,
tu peux répéter
la Ligue 1, le Paris Saint-Germain.
Merci.
Mais qui a perdu contre Marseille?
Mais ça n'a aucune
espèce d'importance. Ah, on s'en fiche, mais maintenant on s'en fiche.
Alors, regardez le match. Et si tu veux reparler de Marseille, regarde le match de Marseille. Le match de Marseille, ils ont fait deux voyages aller-retour à Marseille. Il y avait la remise du Ballon d'Or et tout.
Non, mais ça, c'est dingue.
Au bout de 10 minutes de match, tu comprenais
que c'était pas dingue. Non, mais c'est dingue, ça allait retour.
Et puis, quelque part, c'est bien pour le spectacle. Ça va nous donner un peu de suspense, un petit peu d'intérêt. Ça va titiller les appétits.
Oui, donc c'est du caviar pour tout le monde, en fait.
Ton texto sur le groupe était pertinent, Christophe. Ça va donner. En fait, le championnat de France, on se dit là, à l'instant T, on se dit, Paris va moins rayonner parce que Marseille est là. Tu l'as écrit.
Ouais.
Donc reste dans ta ligne, voyons.
Je suis dans ma ligne.
Ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'on soit transi de peur.
Vous parlez d'inquiétude, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. J'espère que le Paris Saint-Germain va être un peu moins fort que l'année dernière, que Marseille va s'accrocher, qu'on aura du suspense un peu plus longtemps. Et puis j'espère qu'en Coupe d'Europe, ils continueront de gagner.
C'était le message effectivement sur le groupe WhatsApp que l'on a en préparant l'émission des grandes gueules de sport. Un jour on dévoilera tout ce qu'il y a dans la préparation.
Non, faut pas tout là, surtout faut pas. Alors là, fais gaffe, j'ai quelques dossiers.
Allez, le résultat du ring, êtes-vous inquiet pour le PSG avec les blessés? Oui, à 60%. Vous avez perdu un petit point. On a gagné un petit peu le camp des personnes qui n'étaient pas inquiètes. Oui, vous entendez Christophe Cessieux dire il se passe quelque chose sur la course en ligne des championnats du monde. Oui, Christophe, on va aller voir Maria Azé, Oranda, Kigali. On voit beaucoup les bleus depuis le début de la course, Maria.
On voit beaucoup les bleus depuis le début de la course, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. On est à 239 km de l'arrivée, donc autant vous dire qu'on n'est pas arrivé. C'est déjà terminé pour Julien Alaphilippe. Non. Alors il a tenté une petite attaque, Julien Alaphilippe. Alors juste pour vous prévenir qu'on a un Français dans l'échappée qui a une minute d'avance sur le peloton, c'est Julien Bernard, et derrière Julien Alaphilippe, il est dans le peloton. Il a tenté une accélération, je pense un peu pour se tester, il a senti que ça n'allait pas le faire et il a été très vite lâché par le peloton. On avait entendu ces derniers jours qu'il était un peu malade, Julien Alaphilippe, et ben ça va pas le faire. Voilà, le Français qui va sûrement abandonner. Souci mécanique aussi pour Valentin Madouas, mais qui devrait revenir. On a vu les Français aussi tenter de dynamiter un peu et de tenter quelques accélérations pour faire éclater le peloton, notamment sous l'impulsion de Valentin Paré-Pinte et de Paul Sexas. Donc voilà, autant vous dire qu'on voit beaucoup les Français depuis le début de cette course, et je vous le disais, Julien Bernard dans l'échappée qui a une minute d'avance sur le peloton.
On voit pas vraiment effectivement les Français pour l'instant au chaud. Marc, tu veux dire un mot ?
D'entrée, on voit les Slovènes qui contrôlent et qui maîtrisent la situation.
Et donc effectivement, on prépare la course à Tadej Pogacar. En tout cas, on gère la course.
Mais je trouve qu'ils se mettent à la barre de bonne heure.
Peut-être trop de bonne heure ?
Ouais, c'est tôt, je trouve que c'est tôt.
Ça va être une course peut-être complètement débridée. On continue de suivre ça, évidemment. Maria, tu reviens dès qu'il le faut l'information. Julien Alaphilippe lâché sur le début de cette course en ligne. Ça va être compliqué, voire terminé pour lui, pour ses espoirs de maillot arc-en-ciel. On revient dans quelques instants, on va parler de vélo avec Christophe, tiens, qui prend le brassard et va nous parler d'une équipe française qui va disparaître cette semaine. Il faut s'en inquiéter. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pascal Duprat, Marc Madio, Cédric Emmons et Christophe Cessieux. Je vous rappelle l'information, pour l'instant, du début de ce championnat du monde de cyclisme. Julien Alaphilippe lâché dès le début de la course. On retournera voir Maria Azé dans quelques instants au Rwanda. On va remonter le temps aussi, les amis, sur le plus gros scandale peut-être de l'histoire des Jeux Olympiques. Dans les GG, remonte le temps dans quelques secondes. Mais tout de suite, Christophe Cessieux, met le brassard.
RMC, Captain Cessieux, met le brassard.
Christophe, tu voulais nous parler de cyclisme aujourd'hui, mais pas des mondiaux. Cette semaine, une équipe française va peut-être mourir. Tu trouves ça insupportable?
Oui, effectivement. Ce dimanche de championnat du monde, alors que tout le monde devrait avoir le cœur à la fête, eh bien, moi, je vais vous parler d'une triste nouvelle, plutôt de deux d'entre elles. Des nouvelles qui concernent les équipes professionnelles françaises qui vont sans doute se réduire dans les semaines et dans les saisons à venir. L'info la plus alarmante, elle concerne la formation Arkea BNB Hotel, l'équipe qui est portée à bout de bras depuis 20 ans par un passionné de vélo qui se nomme Emmanuel Hubert. Un garçon qui en quelques années a réussi à hisser sa formation au rang de World Tour, qui est la première division du cyclisme mondial. Une équipe qui nous a fait vibrer, rappelez-vous, l'été dernier, grâce aux exploits de Kevin Vauclin, 7e du Tour de France, et dont la fraîcheur et le bel état d'esprit avaient donné un bol d'oxygène au Tour de France. Malheureusement, cette formation est en danger de mort et l'acte de décès pourrait être annoncé dans les jours qui viennent. Hubert a en effet vu ses deux sponsors, Arkea et BNB, renoncer à poursuivre l'aventure avec l'équipe bretonne, et on a informé donc Hubert en juin dernier. Depuis, celui-ci se bagarre au quotidien pour tenter de trouver des candidats à la reprise. Or, malheureusement, eh bien, cette quête des sponsors est jusqu'à présent restée vaine. Le temps presse, puisque si le 1er octobre prochain, soit dans 3 jours, Hubert n'apporte pas de garantie bancaire, eh bien, ça en sera fini de l'aventure de sa formation. Et avec cette fin annoncée, la mise au chômage de près de 150 personnes, coureurs, coureuses, mécanos et staff inclus. Une triste nouvelle pour tout ce petit monde, mais également pour le cyclisme professionnel qui perd de plus en plus de monde, notamment les petits qui, au rythme où ça va, se limitera dans les années à venir à quelques 5 ou 6 équipes sponsorisées par des États ou par des multinationales. Le cyclisme d'en bas est en train de disparaître et avec lui sa formidable diversité. Tout cela parce que les gros sponsors ont provoqué une inflation incroyable en matière de cyclisme en quelques années, qui fait qu'aujourd'hui les petites et les moyennes entreprises ne veulent plus et ne peuvent plus se lancer dans l'aventure du cyclisme, sachant qu'ils ne sont plus invités et que de par l'ultra-domination de quelques équipes, eh bien leur visibilité s'en trouve réduite. Et les conséquences pour les jeunes coureurs sont là, parce qu'avec la disparition des petites équipes, seuls les très très bons jeunes vont parvenir dans les saisons à venir à trouver une place en devenant professionnels. Alors si la menace est rouge pour Hubert et son team, elle est également passée à l'orange pour une autre formation française, l'équipe Total Energy, qui a donc appris ce vendredi que son sponsor titre, la plus grosse multinationale française, allait aussi quitter le navire Bernaudot, non pas pour quitter le cyclisme, mais pour s'allier déjà avec une multinationale du cyclisme, à la formation Ineos, formation britannique, sans doute un accord entre les deux entreprises qui sont des entreprises pétrochimiques. Jean-René Bernodeau va donc devoir reprendre son bâton de pèlerin, et il le fait depuis des années, repartir à l'assaut de repreneurs comme il l'a fait depuis si longtemps. Mais aura-t-il à 69 ans la même envie, la même rage et la même énergie pour convaincre des entreprises de s'allier à lui et à ses valeurs? Personnellement, je commence à en douter sérieusement. Et fin 2026, on pourrait voir disparaître une autre formation française ancestrale. Heureusement, il nous reste Marc Madio.
Mais inquiétons-nous, c'est ce que tu nous dis, capitaine Cessieux, ce matin, avec donc ces informations assez préoccupantes. Marc, t'as écouté ça attentivement, tu partages cette préoccupation, il faut s'alerter?
Il y a une préoccupation en France, que tu viens d'évoquer avec justesse, mais la situation est à peu près la même, notamment en Belgique, qui est quand même... la Mecque du cyclisme, et on s'aperçoit qu'il y a deux équipes qui vont fusionner, donc il y en a forcément une qui disparaît entre Lotto et Intermarché. On sait qu'il y a des difficultés financières dans d'autres équipes belges, qui sont quand même la base et la clé de voûte du cyclisme mondial. En Italie, il n'y a plus d'équipe pour le Tour. En Espagne, il y en a une, et elle est dans, comme nous, dans le ventre mou. Donc on se rend bien compte qu'on est à un carrefour, qu'il va falloir qu'il y ait des décisions de prise au niveau international pour rééquilibrer quelque peu le marché et rééquilibrer les forces en présence sur les compétitions. Parce que sinon, on va se retrouver à de multiples reprises avec des doublés ou des triplés d'équipes sur certains résultats de course. Et il est clair que quand on regarde, par exemple, le Grand Prix de Montréal il y a quelques semaines, à 50 bandes de l'arrivée, on savait qui allait gagner. Donc, c'était un petit peu perturbant pour le téléspectateur. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des équilibres qui permettent à tout le monde de vivre. Le cyclisme, c'est un sport qui est basé, qui était autrefois un sport... du peuple, un sport de fils de paysans, un sport de fils d'ouvriers qui disputaient des courses de vélo autour des clochers. Le cyclisme, c'est ça à la base, au point de départ. Et si on n'offre plus de débouchés, si on ne permet plus à des jeunes de courir et d'évoluer à la base, et ça va être aussi un deuxième danger, parce qu'il y a de moins en moins de courses d'organiser, il y a de moins en moins de coureurs, et être coureur cycliste aujourd'hui, pratiquer la course cycliste aujourd'hui coûte cher. C'est devenu et ça devient un sport de riches. Si vous n'avez pas des moyens financiers suffisants, vous ne pouvez plus vous acheter un vélo. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Je ne suis pas sûr que si j'étais né dans la période présente pour être course, pour avoir envie de faire du vélo, je suis pas sûr que j'aurais eu les moyens d'avoir un vélo pour pouvoir courir. À l'époque où j'ai commencé, j'ai pu avoir un vélo. J'ai gagné quelques primes sur les courses cyclistes qui m'ont permis de m'acheter un deuxième vélo un peu plus performant. Et j'ai lancé ma carrière comme ça et j'ai débuté ma vie comme ça. Le vélo m'a tout donné, m'a tout offert. C'est les premiers argent de poche que j'ai eu. Je me les suis gagnés sur le vélo en faisant des courses cyclistes de cadets, de juniors et soit. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire cela. Ça devient un sport de riche. Une bicyclette de compétition coûte énormément cher. La licence est de plus en plus élevée. Les coûts de déplacement sont importants puisque de toute façon il faut se déplacer plus pour aller courir. Donc on voit bien qu'on arrive dans un entonnoir et il y aura de moins en moins de jeunes à pratiquer le cyclisme et à l'étage au-dessus il y aura de moins en moins de débouchés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans un avenir proche, on se retrouvera avec des multinationales présentes au départ des grandes épreuves et notamment du Tour de France, mais on va aussi se retrouver dans une situation où on aura moins de Français en capacité de participer au Tour de France. Voilà un petit peu le tableau tel qu'il est aujourd'hui. Alors il y a forcément des moyens pour régler ces problèmes. C'est le rôle de David Lapartien, président du CI, que d'apporter des réponses et des débuts de solutions pour permettre au cyclisme de continuer à vivre et de permettre de donner encore de l'espoir à de jeunes coureurs.
Il est impossible de...
Aussi bien en France qu'à l'étranger.
Il est impossible d'encadrer les salaires pour éviter d'avoir...
Mais le salaire cap, c'est une chose. On parle beaucoup de budget cap, mais on voit bien qu'il y a une différence de fonctionnement suivant les États dans lesquels on se trouve. En France, nous, on est quand même dans le pays le plus compliqué en termes de taxes et de charges. Donc, il y a un déséquilibre qui est flagrant. Il faut essayer de trouver des solutions pour permettre à tout le monde de vivre et aussi entretenir l'espoir de résultats et de retours sur investissement pour les sponsors traditionnels comme on a en France ou en Belgique.
Parce que aujourd'hui, justement, quand des entreprises comme Arkea, BNB refusent de continuer, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de retours sur investissement.
Ça, je n'en sais rien. C'est à eux qu'il faudrait leur poser la question.
Mais toi, les sponsors, est-ce qu'ils sont contents du retour sur investissement aujourd'hui?
Aujourd'hui, ils sont encore dans une certaine satisfaction du retour sur investissement, mais coûte plus cher. Ça coûte plus cher pour pas forcément plus de résultats. C'est quand même un constat qui non, mais, existe mais, aujourd'hui.
Aujourd'hui, le ROI, il est très compliqué. Moi, dans mon métier, celui que j'exerce toute la semaine pour Andros, c'est mon métier d'aller chercher du ROI partout.
ROI?
Retour sur investissement.
Voilà, merci.
C'est complexe. Parce qu'il y a des nouvelles données. Il y a la vision Instagram, il y a la vision publicitaire, il y a le point de contact que tu vas chercher. C'est hyper, hyper dur. Mettre de l'argent dans des équipes professionnelles, le ROI, il est ledge.
Pascal, t'entends la préoccupation de nos deux capitaines là, parce
oui,
que
mais
Marc a pris la suite.
Vous l'avez évoqué du bout des lèvres, mais nous sommes dans un pays où le marasme financier dû à 40 ans de politique désastreuse, fait que les investisseurs aussi regardent à deux fois avant de mettre dans le sport. C'est tout simplement parce que aussi, ceux qui font les richesses de notre pays, on est aussi toujours en train de les taxer comme on taxe le contribuable en France, plutôt que de réduire un tout petit peu la voilure. Donc on va, par exemple, Total, c'est une des plus grande entreprise française.
Bien sûr.
Comment se fait-il qu'elle reste pas? Qu'elle reste pas et qu'elle va à Ineos? Parce qu'ils veulent se marier, certes, mais certainement aussi pour d'autres raisons qui nous échappent, mais qui sont peut-être financières.
Oui, mais l'économie française, elle est dans le dur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas expliquer à tes employés quand tu es patron d'une multinationale ou d'une entreprise qui passe une période difficile, de leur dire, mais qu'est-ce que tu vas couper? Tu vas couper le sponsoring, tu vas couper le marketing. C'est les premières coupes qu'il y a dans une entreprise.
Ceux qui gagnent le cyclisme a déjà gagné le football depuis bien longtemps. Hein.
Mais exactement, quand tu regardes les budgets d'une équipe.
Les clubs qui sont rachetés par des capitaux étrangers en France, faites-en la liste, elle est longue si vous prenez les 18 clubs de Ligue 1. Par exemple. Donc, on vend nos bijoux de famille depuis des années en France. Ouais. Donc, le sport, il ne va pas y couper.
L'avantage du foot, c'est qu'il y a quand même les droits télé.
Oui, enfin, quand il y en a.
Il y en a de moins en moins en cyclisme. Les droits télé, ils sont pas...
En cyclisme, tu vas de 60 millions à 20 millions. Il y a un tel écart budgétaire. Tu sais déjà pratiquement, allez, je ne veux pas dire, mais qui peut gagner, quoi.
Il y a une grande préoccupation, on le sent, en vous écoutant tous sur l'économie du vélo. Et même au-delà, du coup, c'est évidemment des sujets qui nous passionnent dans les grandes gueules du sport et qui reviennent, malheureusement, j'ai envie de dire, week-end après week-end. Tiens, une information, on retrouvera Maria Azé dans quelques instants. Mais Julien Alaphilippe a mis pied à terre, abandon du Français, l'ancien double champion du monde. Voilà, Maria le rappelait, il était malade cette semaine. Il n'était visiblement pas avec le bon état de forme pour rivaliser aujourd'hui sur le circuit de Kigali, alors qu'il reste 227 km à parcourir sur la course au maillot arc-en-ciel. On revient dans quelques instants. Les GG vont remonter le temps vers le plus grand scandale de dopage, peut-être, vous allez nous dire. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, on va vous ouvrir la porte du vestiaire. Aujourd'hui, on va se poser cette question alors que Yannick Sinner dit qu'il a commencé une métamorphose après sa défaite en finale de l'US Open face à Carlos Alcaraz. Est-ce qu'un champion peut se réinventer? On n'a que des champions autour de la table, et notamment Christophe, un champion, je rappelle, de kitesurf, mais seulement au Brésil.
Ah, le titre lui a échappé de pas grand chose.
Le titre lui a échappé. Ah oui, c'est vrai, finalement, le titre lui a échappé.
Un vol de 500 mètres et donc à 40 mètres de haut, malheureusement.
Sur la figure artistique, t'avais une bonne note, je crois.
Ouais, sur 10 sur 10,
les justes,
la plus belle gamelle, le plus bas.
On te souhaite évidemment un bon rétablissement.
Oui, merci,
Christophe.
Merci.
Je rappelle qu'en fin d'émission.
T'es pas encore rétabli, Christophe?
Pardon?
T'es pas encore rétabli?
Ouais, j'ai la main un peu.
Je vous explique. Christophe blessé, c'est du caviar en fait, parce qu'à la fin de la saison, il sera encore meilleur. Moi, je vous écoute.
Pour les émissions importantes, je vais défoncer.
C'est une très mauvaise nouvelle pour vous tous.
Gros printemps en vue.
Ça va être.
Et tu vois, et ça a permis aux petits jeunes un peu de devenir, de venir se frotter à vous quand même.
C'est sûr, au printemps, quand les matchs vont compter.
Ouais.
Inarrêtable. Voilà. Je l'imagine déjà sur
les... Je sais pas si ça marche. C'est quand même comme ça dans
ça dépend de la nature de la blessure.
Ouais, ouais.
Moi, je pense que
pour la nature de la blessure surtout.
Moi, quand je te vois là, Coupe du Monde de foot, je pense que tu remplaces Daniel Riolo. Sur le foot, là, t'es.
Oh là là là, non, merci. Oh là là. Non, merci. Non, merci. Ah, moi, je pense pas aller voir tonton Trump. Hein. Moi, je préfère aller autre chose, faire autre chose pendant la
nuit. Ouais,
c'est la Coupe du Monde sous la dictature américaine. Non, merci.
Ah oui, d'abord, ça y est, on y est. Les mots ont un sens, c'est sûr. Allez, je rappelle qu'en fin de mission, les jeux du sport aujourd'hui remportent votre PlayStation 5 et le jeu eSport FC 26, appelé le 32-16 touche 4. Envoyez sport au 7-32-16 pour participer. Vous pouvez jouer avec les GG tout à l'heure. Évidemment, je vous rappelle que GG, vous pouvez les écouter en podcast pour comprendre les références, les blagues d'hier notamment. C'est une série, les grandes gueules du sport. Il faut bien connaître les personnages et les caractères bien particuliers. Et tout de suite, les GG remontent le temps, le plus grand scandale du sport. Est-ce que ce ne serait pas celui-là?
It's a fair start, and it is Raymond Kerr with a start, it is Ben Johnson with a start, can Kerr catch him? No, it's Ben Johnson does it again, unbelievable, 9-7-9!
Absolutely incredible!
Ben Johnson a joué à la roulette russe et il a tout perdu. Les tests sont clairs, Ben Johnson a pris du stanozolol.
Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un jour triste pour le sport canadien, pour le Canada.
The gold medal has been withdrawn.
On a des images de Ben Johnson. Il était introuvable depuis le matin.
You had been taking were in fact something called steroids.
Yes.
C'est l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport. 24 septembre 1988, le sprinter canadien, vous l'avez entendu, Ben Johnson, est sacré champion olympique à Séoul devant son grand rival Carl Lewis. Et il explose le record du monde en 9,79. Problème. Deux jours plus tard, il est contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, le stanozolol. La conséquence, Johnson est disqualifié par le CIO qui lui retire sa médaille d'or et annule son record. Et Carl Lewis, donc deuxième, est sacré. Ben Johnson, suspendu 2 ans. C'est une histoire qui a beaucoup marqué. On va vous poser cette question. Est-ce le plus grand scandale du dopage, les amis? Pascal Duprat, tiens, marqué par cet épisode?
Marqué, bien entendu, mais pour moi, ce n'est pas le plus grand scandale en termes de dopage.
Ah oui?
Pour moi, le plus grand scandale, c'est bon, à la fin, au bout de la guerre froide, c'est les blocs de l'Est, et notamment la RDA. L'ancienne République démocratique allemande qui, pendant 20 ans, a sévi, a dopé de manière organisée tous ces jeunes athlètes pour régner dans des domaines comme la natation ou l'athlétisme. Songez plutôt, en 20 ans, je crois que l'Allemagne de l'Est a remporté 519 médailles aux Jeux Olympiques, dont 192 d'or. Il y a encore un record du monde de Marita Kor qui tient toujours, celui du 400 mètres, et qui n'a pas été battu, même
on s'en approche.
Mais c'était un scandale sans nom. C'est-à-dire que n'importe quel cornichon pouvait devenir un athlète de haut niveau
en Allemagne de
l'Est. Vous vous rendez compte qu'on donnait des hormones mâles aux femmes à cette époque-là? Ça a été avéré.
Et certaines étaient mises enceintes artificiellement. Parce qu'au début de la grossesse, ça te file un.
Bon, Pascal, plutôt sur la RDA, Cédric, toi, Ben Johnson.
Oui,
quand
par l'immédiateté du CR qui franchit 2 jours après, ça tombe.
Ouais,
c'est ça, parce que là, on est dessus.
Le scandale vécu en direct.
Exactement, c'est l'immédiateté, c'est l'athlète qui nous faisait rêver et qui tombe d'un coup. Après, dans l'ampleur, moi, je resterai un peu sur Armstrong et qui rejoint Pascal sur.
Et qui tombe des années plus tard.
Et qui tombe des années plus tard. Moi, là, je veux dire, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est-à-dire c'est
le choc. Ouais.
C'est de la télé réalité pratiquement. Tu t'es champion 2 jours après, on te cherche, t'es plus là, t'es positif.
C'est la mort en direct.
Exactement.
Alors il y avait eu déjà une autre histoire de mort en direct. C'était la mort de Tom Simpson sur les pentes du Ventoux.
Ah, beaucoup, c'était une mort littérale, effectivement.
Ouais. 20 ans plus tôt. Et là, c'est la première fois qu'on parlait vraiment de dopage, même s'il n'est pas avéré. Enfin,
on avait trouvé des ventoux, effectivement.
Un mort en direct sur une course. Ça avait vraiment marqué les esprits. Bon, moi, j'étais pas né, ou j'étais tout juste né, je sais plus. Mais,
67.
Ouais, t'étais né, ouais, t'étais né.
Bon, j'étais pas en état de regarder la course.
T'étais né, tu commentais.
T'étais dans mon lit ou pas là, à l'époque.
Copie marquée.
Mais ça avait été aussi un scandale. Mais évidemment, pour moi, le plus gros scandale de dopage, parce que On avait en plus une figure, le grand méchant loup par excellence, Lance Armstrong, qui en plus d'être un tricheur, était un salaud, était un dictateur, a usé de moyens terribles.
Et il y avait une belle histoire.
Pour moi, il est la figure, le Dark Vador du dopage. Tu vois, le grand méchant, Ben Johnson, pour moi, ça a été un tricheur, mais c'était plus une victime qu'un instigateur.
Ah, t'es pas victime quand tout le monde.
Ah, il a bien sûr qu'il a été victime de son entraîneur. Victime de son entraîneur qui lui a fait avaler les trucs et qui, une fois qu'il s'est fait choper,
dans cette conception-là de dire tu prends un cachet, tu vérifies pas.
Alors, il était issu d'un milieu modeste, il pensait qu'un truc c'est gagné. Il a été fautif, tout ce que vous voulez. Mais il était un peu neuneux, Ben Johnson. Et celui qu'il a balancé en plus derrière. Il a balancé les conversations téléphoniques qu'il avait avec son athlète.
Marc.
Bah oui, pour moi c'est l'événement majeur en termes de dopage, c'est l'affaire qui s'est déroulée en Mondiovision. C'est la première fois qu'on avait un tel scandale en Mondiovision et en temps réel. Après les autres affaires qu'il y a eu, elles étaient un peu plus décalées dans le temps. Là, on était en Mondiovision. Il y a la finale du 100 mètres qui est l'événement majeur des JO chaque Olympiade, et là deux jours après il y a la déflagration. Donc pour moi il y a eu un avant et un après Ben Johnson et Séoul.
Ça a servi d'ailleurs cette histoire Ben Johnson, vous pensez ça?
Peut-être dans la
compréhension de il se passe des choses en fait justement dans les grandes disciplines,
la réforme, les mesures anti-dopage ont été un peu plus importantes. Mais il faut savoir que sur cette finale de Séoul 1988, elle a été baptisée The Dirtiest Race of the History.
Ouais.
C'est-à-dire que la course la plus sale de l'histoire.
Ah oui, d'accord,
c'est-à-dire que sur les 8 finalistes, il n'y en a que 2 qui n'ont jamais trempé dans des affaires de dopage. Et celui qui aurait dû gagner la course, c'est pas Carl Lewis, parce que lui aussi a bien trempé là-dedans. C'est Calvin Smith qui, lui,
n'a jamais été trempé. Carl Lewis.
Oui, mais regarde
cette course.
Regarde ce que tu viens de dire. Jamais attrapé. Ouais. Ça veut dire que pour toi, il est chargé, mais plus malin que les autres.
Bien sûr, il était bien plus malin.
C'est pour ça que j'ai presque envie de dire que le dopage, parce qu'il faut arrêter de faire les oies blanches. Hein. Le dopage aujourd'hui, il est aussi très organisé, donc il est plus masqué, il est plus difficile encore à vérifier. Je dis qu'on dit ça a marqué l'histoire.
C'est sûr que. Non, mais c'est pour ça, t'as raison, Pascal. Est-ce qu'on aura un jour un champion olympique du 100 mètres qui sera à nouveau attrapé comme ça juste après? Pas sûr, justement, parce que les tricheurs aujourd'hui ont peut-être un peu trop.
Non, mais avec l'évolution aujourd'hui, tu peux revenir tellement en arrière avec les progrès de la médecine sur aller chercher tout produit qui, à un moment donné, sont cachés par d'autres produits, puis après peuvent être révélés. Tu t'es à l'abri de rien.
Il était ciblé quand même, Ben Johnson.
Bah oui.
En quelques années, de gringalet, il était devenu Monsieur Muscle. Ouais. Ses résultats étaient hallucinants.
Il a travaillé fort.
Perturbé quand même Carl Lewis.
Ah, et puis perturbé Carl Lewis, qui était quand même le maître absolu, quadruple champion olympique 4 ans plus tôt. Et ça plaisait pas.
Comme moi, je suis parti en Argentine, j'étais gringalé, je suis revenu, 15 kilos de plus.
Pas de muscle.
T'as pas fait du vélo, t'es pas passé sous les barres.
Allez, dans quelques instants, les amis, le vestiaire, vous allez nous dire si un champion peut se réinventer alors que Yannick Sinner essaie de le faire. Et puis évidemment, on a toujours un œil sur les championnats du monde de cyclisme. Je vous dis rapidement, Marc Soler et Dylan Van Wilder ont lourdement chuté et Julien Alaphilippe a abandonné. Et on revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.